Podcast La Première. Matin Première.
L'invité, Philippe Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président du PS, membre du groupe de travail sur la réforme de l'État. On va vous retrouver dans un instant après votre choix musical. On écoute Patrick Bruel sur La Première avec Peuple Impopulaire.
Faut-il aller plus loin? Faut-il continuer? Défendre l'égaré, le faible et cette foule qui n'ayant jamais eu de point d'appui s'écroule. Où est leur place dans cette impasse? Où est ma place devant la glace? Et c'est tout un peuple qui attend son salaire, ce peuple qui parfois devient impopulaire. Il fallait les guider, les prendre par la main, les renseigner sur l'ombre et sur le vrai chemin. Il fallait leur donner leur part de la cité et votre aveuglement produit leur cécité.
Patrick Bruel avec Peuple Impopulaire, le choix musical de votre invité ce matin, Bertrand Hennin.
Philippe Moreau, bonjour.
Bonjour.
Alors, et combien de temps faudra-t-il dire que c'était à vous et à vous seul de les conduire d'une tutelle avare? On recueille les suites et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fites. Alors, Patrick Bruel s'adresse, je suppose, aux dirigeants.
Traduction. C'est Victor Hugo, en fait.
C'est de Victor Hugo.
C'est un texte de Victor Hugo. Oui.
Et traduction personnelle au contexte belge, le PS risque de se faire sanctionner lors de ces élections. Et si c'est le cas, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fites.
Oui, mais c'est surtout la notion de peuple impopulaire. C'est un moment où on finit par répandre l'idée que le peuple, c'est pas bien. Et je pense que c'est malheureusement dans l'air du temps. Regardez toute l'offensive contre ce qu'on appelle les assistés, et c'est une offensive quasi générale de la plupart des formations politiques, c'est s'attaquer aux plus faibles en disant « voilà, on vous assiste, vous êtes moins que rien ». Et finalement, même les assistés finissent par se poser le problème. Alors que moi, je défends la thèse, mais je suis pas toujours très suivi sur ce plan-là, que c'est le devoir du politique. La première chose, je dis, tout être humain d'ailleurs, quand vous voyez quelqu'un qui est tombé par terre, vous le relevez. Et je pense que quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de revenus, quelqu'un qui n'a pas de logement, la première chose à faire, c'est de l'aider à trouver ça. Et ensuite, bien sûr, l'assister, c'est aussi l'assister pour trouver un travail. La plus belle des choses qu'on puisse faire pour quelqu'un, c'est lui trouver un travail. C'est ça que je trouve dans ce texte de Victor Hugo, une permanence, et qu'il y a des moments comme ça, où le politique, finalement, se laisse emporter par quelques slogans et finit par rendre le peuple impopulaire, ce qui est le comble.
Pour revenir sur ma question,
oui, je vous en prie.
Si le PS se fait sanctionner lors de ces élections, ce sera vraiment de sa faute.
Je pense que c'est lié à un climat, c'est lié à une offensive généralisée des médias contre lui, mais c'est lié aussi à certaines de ses erreurs. Ça ne fait
une offensive des médias, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Mais je veux dire que vous ne pouvez pas ouvrir un journal depuis quelques semaines sans qu'il n'y ait chaque fois, on trouve chaque fois une manière d'attaquer le PS. Il y a pour le moment un vent.
Pas ces affaires-là.
Il y a pour le moment un vent. Non, mais c'est des aspects vent dominant. Il y a eu une époque où le PS était merveilleux, il y a 5 ans. Tout ce que nous faisions était toujours très bien. Pour le moment, on est dans le vent contraire. Bon, il faut vivre avec, mais il faut tout de même avoir les yeux ouverts sur le réel.
Mais justement, ces affaires, Vanco, Lizin, l'attitude de José à part dans ce voyage en Californie, il y a de nouveau quelque chose qui sort aujourd'hui sur Didier Donfus et ses cumuls entre sa mission de consultance et son poste de ministre. Pourquoi est-ce que le PS n'arrive pas, visiblement, à redresser la barre ?
Je pense qu'il redresse.
À changer son image.
Je pense qu'il redresse la barre. Je pense qu'une série de décisions très nettes ont été prises ces derniers temps, beaucoup plus forte qu'auparavant, mais je pense que pour que ça percole dans l'opinion publique, pour qu'on se rende compte qu'il y a une page qui se tourne, il faudra encore d'abord du temps. Il est vrai que vous avez encore dans l'esprit des choses incroyables qui sont faites. On essaye d'ailleurs de les remettre dans l'esprit. Regardez ce procès à Charleroi, dont on voit qu'il n'était même pas bien préparé, qui est vite organisé avant les élections.
Agenda judiciaire mal ficelé.
Écoutez, je suis même étonné qu'un dossier mal ficelé arrive justement 3 semaines avant les élections. Ça ne vous étonne pas ?
Je ne fais pas d'hypothèse sur l'agenda judiciaire.
C'est un fait. Moi, je vois les choses, c'est tout. Et je dis que c'est vrai. Il y a certaines personnes qui ont symbolisé cette situation. Tout doucement, elles s'effacent, mais elles ne sont pas encore complètement effacées.
Est-ce que pour vraiment changer l'image du PS, pour vraiment donner l'impression aux électeurs, aux citoyens,
l'impression,
qu'on a tourné
la réalité
et le faire réellement, il faudrait un nouveau président de parti ?
Je ne pense pas que. Je crois que le président a pris des mesures extrêmement nettes, en particulier depuis quelques mois. Je pense que les choses sont passer à une vitesse supérieure, donc je ne crois pas qu'il y ait un problème de présidence.
Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces électeurs qui, dans les sondages, bien sûr, ce n'est pas prédictif, ce n'est qu'un sondage, une photographie de l'opinion, mais en tout cas, ces sondés qui, à nos sondeurs, disent « je vote PS et je vais bientôt voter écolo ». Ces sondés donc qui semblent quitter le PS pour aller vers écolo.
Écoutez, je ne pense pas que c'est qu'il semble, je pense qu'il y a eu déjà aux dernières élections un passage de ce genre qui se confirme dans les sondages et que nous rencontrons dans les discussions des gens qui hésitent entre le PS et écolo, souvent pour les problèmes que nous avons indiqués, les problèmes d'image du PS qui n'est pas entièrement redressé. Moi, je leur dis simplement, bien sûr que le vote écolo est un vote tout à fait qui peut se comprendre sur bien des points, mais que s'ils ont la fibre sociale, le social, c'est le PS. Écolo est un parti de gauche. Moi, je ne lui refuse pas cette mention.
Laurent Tonkelings disait ici même parti du centre.
Oui, moi je dis parti de gauche, mais un parti de gauche un peu élitiste. Un parti de gauche qui a participé de ce que je disais tantôt, cette attaque contre soi-disant l'assistanat, qui un peu aussi s'est inscrit dans ce climat de peuple impopulaire. Et je pense que le social, il est toujours porté avec force par le Parti Socialiste. Toutes les grandes conquêtes sociales, chaque fois qu'on doit se bagarrer, et contrairement à ce que croient les gens, il y a toujours un problème de classe, un problème de bagarre au niveau de tous les gouvernements entre des mesures qui favorisent plutôt les élites, et les élites financières surtout, et des mesures qui favorisent le peuple.
Donc le message des colons est de dire qu'il faut viser l'émancipation sociale.
En cette matière-là, le PS, je suis désolé, est incontournable. Et quand vous n'aurez pas le PS dans un gouvernement, qu'il soit régional ou qu'il soit fédéral, la population, le peuple verra la différence. Le peuple dans le sens large qui va depuis l'assister, comme on dit, je déteste ce terme, mais je l'utilise puisque je ne vais pas me cacher des mots que l'on veut utiliser contre ces gens, jusqu'au petit indépendant. Tous ces gens seront sacrifiés si nous ne sommes pas là.
Donc votre message ce matin, c'est de dire si le PS n'est pas dans les gouvernements, qu'il est relégué dans l'opposition, on va gouverner de manière antisociale. Même si écologique.
Pas nécessairement antisociale, parce que je pense qu'il y aura des freins. Les démocrates chrétiens, les écolos ne vont pas courir derrière tous les fantasmes libéraux. Ça, j'en suis convaincu. Moi, je ne fais pas une caricature. Et je vous ai dit, pour moi, écolo est un parti de gauche, en tout cas jusqu'à présent. Mais je dis que le moteur social de ce pays, c'est le Parti Socialiste. Ça, je crois que toute l'histoire le démontre, y compris l'histoire récente.
Alors, vous êtes le père de l'Olivier à Bruxelles, hein, cette coalition qui regroupe PS, CDH et Écolo. Est-ce que vous conseilleriez cette solution aux Wallons et en communauté française?
Moi, je trouve qu'elle a bien fonctionné à Bruxelles. Je n'ai pas à donner de conseils à d'autres, mais je trouve qu'elle a très bien fonctionné, que c'est un gouvernement qui était un gouvernement à la fois de centre-gauche et d'apaisement, alors qu'on avait connu des coalitions extrêmement heurtées, extrêmement difficiles. Et donc j'espère que l'électeur à Bruxelles va continuer à proposer une majorité d'Olivier, et je trouve que ce ne serait pas si mauvaise idée si à d'autres endroits on suivait ce bel exemple.
Et donc à Bruxelles, si la majorité est là, si l'électeur le permet, c'est l'Olivier qu'on va favoriser?
En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que je proposerai, avec bien sûr, s'il y a des changements, ce qui sera le cas, des rééquilibrages. Il faut tenir compte de ce que l'électeur dit de façon très claire. Mais je crois que ça a bien marché, ce serait dommage d'y mettre fin.
Il n'y a pas d'accord préélectoral?
Non, ça c'est l'électeur qui décidera.
Alors, on va parler un moment de la réforme de l'État, puisque vous êtes le monsieur plombier réforme de l'État du PS. Ces élections, elles vont être déterminantes côté flamand, avec un carton annoncé dans les sondages toujours, mais de la Lijst de Decker. C'est un homme dangereux, Jean-Marie de Decker. Est-ce qu'il pourrait rendre, s'il est dans un gouvernement, la réforme de l'État impossible?
Impossible, je ne dis pas, mais encore plus difficile. Vous savez, ça c'est la grande erreur du MR. Nous voulions avancer dans la réforme de l'État avant les régionales, parce que nous savions que nous avions encore en face de nous des interlocuteurs difficiles, très difficiles, mais avec lesquels il est possible de parler. Vous savez, quand vous regardez aujourd'hui la carte politique en Flandre, et c'est les sondages, mais je pense qu'avec peut-être des petits changements, c'est à peu près ce qu'on verra, il n'y a plus de parti dominant. C'est incroyable, la Flandre. Il n'y a plus de parti à 20%. Ils sont tous en dessous de 20%. Donc vous avez une carte politique extrême. La NVA est en train de remonter très très fort dans les sondages. Il n'y a pas que de Decker. Ce sont des gens avec qui je ne dis pas, bon, il y a un moment où il faudra bien discuter avec celui qui est en face de nous, mais avec qui la discussion va être beaucoup, beaucoup plus difficile qu'elle ne l'aurait été aujourd'hui.
Vous dites qu'il aurait fallu discuter maintenant ou avant, et c'est à cause du MR qu'on n'a pas réussi à le faire.
C'est le MR qui a mis sans arrêt des entraves pour empêcher cette discussion en disant on verra bien après les régionales. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore actuellement des discussions, des contacts entre vous et les autres négociateurs des autres partis flamands?
Non, pour le moment c'est un temps de neutralité sur ce plan-là. Je pense que dès le 8 juin, tout le monde se rendra compte qu'il faut se remettre à table, mais ça c'est pour l'après.
Donc le dossier n'aura pas avancé depuis décembre, au moment où avec Chris Peeters le dialogue s'est arrêté.
Bon, il a un peu avancé justement avec Chris Peeters à un moment donné. Il y a tout de même des pistes qui avaient été mises sur le tapis et qui faisaient sinon l'unanimité, qui en tout cas montraient quelques petits rapprochements. Maintenant, attendons de voir la carte flamande, parce que c'est normal, nous nous intéressons beaucoup aux élections évidemment en Wallonie et à Bruxelles, mais les élections en Flandre vont être très très importantes aussi.
On parle beaucoup de financement de l'État fédéral, puisqu'on sait bien qu'avec la crise, les finances sont très mauvaises, et la manière dont les régions vont devoir participer à ce financement. Est-ce que cette question qui va être très difficile va se joindre à la réforme de l'État, et que les Flamands vont de nouveau, comme pour les précédentes réformes, nous tenir par l'argent, quelque part?
Bien sûr, et la crise va rendre les choses plus difficiles. Pourquoi? Parce que l'État est pour le moment en déficit grave. Tous les pouvoirs publics à peu près tous sont en déficit grave. Donc on va devoir faire des politiques qui remettent les choses, je dirais, à plat sur le plan financier. Pour les remettre à plat, il y aura des formules différentes suivant qu'on est de gauche ou de droite, mais il y aura aussi la Flandre plus riche qui dira « c'est encore plus que naguère le moment où laissez-nous notre argent, nous allons nous débrouiller et vous vous débrouillerez autrement ». Donc tout ce que nous avons connu comme tentation du côté flamand de couper la sécurité sociale, de diminuer ce qu'ils appellent les transferts, va être multiplié par deux à cause de la crise. Ce qui veut dire, ça c'est l'autre aspect de cette élection, c'est qu'il faut des partis qui sont à la fois des partis de dialogue, il faut dialoguer avec la Flandre, il faut trouver une solution, il faut cesser l'attentisme, mais en même temps il faut être assez fort pour ne pas se laisser coincer dans une situation où c'est notre population, celle de Bruxelles et celle de Wallonie, qui paierait la facture.
Podcast La Première.